rendez-vous culture des bibliothèques de Compiègne.
Bonjour à toutes et à tous. Après les conseils de lecture la semaine dernière, voici notre nouvelle émission consacrée aux séries télé. Aurore, Nathalie, Amy, Antoine et moi-même vous proposons de belles découvertes, pleines de rebondissements, d'émotions, pour ensoleiller votre été. Nous allons parler de 8 séries aujourd'hui, Infinity, Des gens bien, Transatlantique, Ted Lasso, Outer Range, Utopia, Les filles du dernier rang et La reine Charlotte. Et nous allons commencer avec la série Infinity grâce à Antoine.
Merci beaucoup Anne. Alors aujourd'hui je triche un peu parce que pour la première fois je vais commenter une série dont je n'ai vu qu'une partie. J'ai pas vraiment d'excuses parce qu'en plus c'est une mini-série Canal Plus de 6 épisodes, donc ça prend pas tant de temps à voir. Mais en fait je quitte Compiègne dans quelques mois, donc c'est mon dernier rendez-vous série auquel je participe, et donc j'avais extrêmement envie de participer à cette émission avec vous, donc je vous prie de m'excuser. En revanche, évidemment c'est pas du tout mon dernier rendez-vous série ou mon dernier rendez-vous culture en tant qu'auditeur, puisque là où je serai dans les mois et les années qui viennent, je continuerai d'écouter Radio Graphite sur le site web.
Nous espérons bien.
Voilà, j'ai hâte d'écouter vos prochaines chroniques. En attendant, je vais vous parler de Infinity. Infinity, c'est une série un peu bizarre. Ça commence au cosmodrome de Baïkonour. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est au Kazakhstan. Et c'est le cosmodrome traditionnel de l'Union soviétique. Et ça commence avec un accident qui a lieu dans la Station spatiale internationale. Un astronaute désobéit, un accident a lieu et on n'a plus de nouvelles de l'équipage. Et au même moment, dans les steppes kazakhs, autour de Baïkonour, on retrouve le cadavre décapité et recouvert de cire d'un homme. Un homme qui se révèle être l'un des astronautes en mission dans la Station spatiale internationale. Alors, on ne comprend pas bien, où est-il? Est-ce qu'il est vivant dans la Station spatiale? Est-ce qu'il est mort? On n'a pas de contact. Ou alors, est-ce qu'il est mort et décapité dans la steppe kazakh? Est-ce qu'il est à deux endroits en même temps? Mystère. Et donc, ce qui est très intéressant dans cette série, c'est que ça mélange deux univers cinématographiques qui, pour moi, étaient différents. Et j'ai vraiment eu l'impression de voir un mélange entre, d'un côté, les films d'Asie centrale, vous savez, avec des personnages, des beaux paysages, des personnages un peu lents, un peu bourrus. Il y a des personnages de flics, notamment, très touchants, très attachants et en même temps un peu inquiétants. Et puis tout ce monde soviétique, on ne comprend pas exactement quel est le rapport entre les Kazakhs, les Russes, les agents secrets, les pas agents secrets, les paysans, les voyantes, etc. Et puis de l'autre, en fait, vous êtes dans l'univers des films américains, avec des personnages enfermés dans une station spatiale en panne qui dérive dans l'espace. Je pense qu'on a tous vu des films ou des épisodes de séries un peu sur ces thèmes-là. C'est extrêmement efficace, hein. Quand vous voulez créer une action fondée un peu sur l'angoisse et la claustrophobie, une station spatiale, c'est quand même pas mal. Et donc voilà, on mélange ces deux univers et le mélange fonctionne très bien. On sort des sentiers battus, on arrive à une histoire qui est captivante et en fait, j'ai hâte de rentrer chez moi ce soir pour voir la suite, du coup. Et puis, en fait, il y a une esthétique qui est très réussie. C'est très, très beau. C'est filmé, alors en partie avec des drones, c'est filmé... Alors, toutes les scènes qui sont dans la Station spatiale internationale ont réellement été filmées dans la Station spatiale internationale. Non, évidemment, c'est pas vrai. Mais c'est très bien fait, c'est très bien filmé. On s'y croit, et on s'y croit à la fois dans la steppe kazakh et dans la Station spatiale. Et c'est ça qui est vraiment formidable. Donc je vous recommande en tout cas le début et puis je vous dirai peut-être une autre fois ou pas si je vous recommande également la fin. Donc voilà, c'était Infinity et maintenant je vais passer la parole à Anne. Anne, vous allez nous parler de Des gens bien qui est également une mini-série et avant cela, on écoute un extrait de la bande-annonce.
Allô ? Je suis l'inspecteur Tom Leroy. Je viens d'avoir un accident avec ma voiture. Ma femme est à l'intérieur.
Il y a eu un accident cette nuit dans les bois. C'est un collègue qui a eu l'accident. C'est un Belge.
C'est bizarre ce mec, non? Il vient de perdre sa femme. Il pleure pas.
10h, ça y est, j'ai faim.
Ça te dirait que on se tape une petite frite en entrant?
Mon pauvre Tom.
Mourir dans les flammes, c'est vraiment horrible.
Horrible. Ouais. Linda, je t'aime.
Au bout du tunnel, il y a toujours une lumière.
Linda Leroy, elle avait une assurance vie doublée en cas de mort accidentelle. Faut que vous ouvriez une enquête.
Bonjour tout le monde.
Michel, accidentologue.
Ce sont les photos de Tom Leroy prises hier soir. C'est peut-être lui qui a mis le feu.
Je connais le bonhomme. C'est des gens bien.
Je t'aime.
Non, non.
Je te perds.
Une date.
Oh, tout à poil.
Patricia, non.
Des gens bien. C'est une série de 6 épisodes coproduite par Arte qui nous emmène dans les Ardennes, à la frontière franco-belge. Scène inaugurale. En pleine nuit, un homme pousse sa voiture dans un ravin avant d'y mettre le feu. Le corps d'une femme s'y trouvait. Puis il appelle les secours, déclarant avoir été victime d'un accident de la route durant lequel son épouse n'a pas survécu. Les gendarmes adhèrent vite à cette déduction. Un virage dangereux, la nuit, la personnalité irréprochable de Tom, lui-même gendarme, l'amour indéniable qu'il unissait à sa femme Linda et l'empathie du major Rabé, qui connaissait le couple comme des gens bien. Et se trouve lui aussi veuf à cause d'un accident de voiture sur le même lieu. Et comment douter de la bonne foi d'un confrère irréprochable tel que Tom ? Ainsi, aucune autopsie ne sera demandée sur le corps de la défunte. Seul un membre de la brigade, Philippe, trouve le déroulé des événements étrange et refuse cette thèse, d'autant plus qu'il a bien connu la jeune femme. Tout commence donc comme une histoire policière, dont on connaît le coupable, et nous sommes prêts à suivre l'assassin et la façon dont il va se disculper. Des retours en arrière vont nous permettre de rencontrer Linda, sa femme, et de comprendre comment ils s'en sont arrivés là. Le jeune couple avait tout pour être heureux en apparence, mais le salon de bronzage dont elle rêvait et qu'elle vient d'ouvrir a fait faillite. Ils se retrouvent endettés jusqu'au cou, d'autant qu'ils ont emprunté à tous les membres d'une communauté évangélique à laquelle appartient la sœur de Tom, très pieuse. Ils vont alors élaborer un plan pour se sortir de cette crise à base de petits arrangements avec la légalité, mais rien ne va se passer comme prévu. Ce qui frappe d'abord, c'est l'empathie immédiate. Linda et Tom sont des personnages attachants. Elle, pleine d'espoir, d'ascension sociale, d'un optimisme qui confine à la naïveté. Lui, petite moustache rétro, paraît tout droit sorti de la série Fargo, un quidam qui n'a vraiment pas l'étoffe d'un meurtrier et qui semble subir plus qu'agir, affublé d'un air hagard dont il ne se départit jamais. Un couple touchant dans sa volonté de s'en sortir par tous les moyens. Et à leur côté, on a toute une galerie de personnages hauts en couleur. Des perchés, des déjantés. Et on n'est pas loin de la caricature, notamment avec le cousin psychopathe à tendance paranoïaque, aux actions autant réfléchies que stupides. La série mise sur le contraste entre l'incongruité des protagonistes et le sordide des situations. Le côté saugrenu est amplifié par le casting excellent des seconds rôles. India Air, Corinne Maziero, François Damiens. Les deux derniers ont des tout petits rôles, mais pas des moindres, ils sont hilarants. On retrouve la force des personnages qui avaient fait le succès de La Trêve, la précédente série des auteurs Stéphane Bergmans et Benjamin Daoust, co-scénariste du réalisateur Mathieu Donc, qui s'est inspiré d'un fait divers rapporté par son oncle, expert en assurance, pour bâtir cette histoire d'escroquerie, qui joue à merveille des zones d'ombre de l'enquête et aussi des frontières entre la France et la Belgique. Le récit repose sur une captivante dynamique narrative de catastrophes qui s'accumulent et appuie son efficacité sur cet enchaînement de quiproquos, de péripéties improbables. Et il maîtrise une tension incroyable, avec des coups de théâtre qui réorientent complètement la nature du récit et remettent tout en perspective. À ce titre, le générique d'ouverture de chaque épisode est magistral. On a une bande-son, matinée d'air de banjo, qui apporte une atmosphère un peu western, totalement décalée. On est bien dans un thriller, mais qui bascule constamment dans le burlesque, d'un humour absurde autant que noir et désespéré. Des gens bien est indéniablement une série ingénieuse et truculente dont on espère avoir bientôt une seconde saison. On va parler maintenant de la série Transatlantique dont on va écouter un extrait musical.
Hit the spot, Danny might buy you a soda pop. It's ringing.
his tip till we blow the top. Train is bumbling, it won't stop. Danny gonna take to the linear hop, we're swinging.
Donc vous avez écouté l'extrait qui s'appelle Up and Downtown, composé par Mike Ladd et interprété par Laura Prince avec Air Bell Hot 5. Donc pour moi, en fait, j'ai choisi cet extrait parce que pour moi, il représente vraiment la série et aussi l'époque. Parce qu'on est en 1940 en France et particulièrement à Marseille. Et c'est une série donc, qui est inspirée de l'histoire vraie de Varian Fry, un journaliste américain qui a aidé de nombreux juifs à fuir la France occupée. Et c'est une série télévisée allemande qui a été adaptée du roman The Flight Portfolio de Julie Oringer par Anna Winger et Daniel Handler, à qui l'on doit également Deutschland 86 et une orthodoxe. Alors c'est une mini-série également, puisqu'elle a été composée, elle est composée de 7 épisodes au total. Et elle avait posé ses caméras durant 38 jours au cœur de la cité phocéenne. Elle porte à l'écran Corey Michael Smith, qui joue Variant Fry, Gillian Jacobs, qui joue le rôle de Mary Jane, Luca Englander, qui joue le rôle d'Albert Hirschman, ou encore le français Grégory Montel, qui joue le rôle de Philippe Froh. Donc Transatlantique, c'est vraiment un plongeon réussi dans le passé, et qui a été tourné en intégralité, et ça je trouve que c'est assez particulier, en décor réel. Donc la série avait notamment pris comme toile de fond des sites marseillais emblématiques tels que l'hôtel Splendide de Marseille, ou encore le quartier pittoresque du Panier, la côte littorale identifiable par ses fameuses calanques, la vieille Charité ou encore l'abbaye Saint-Victor. Et en effet, cette série revient sur l'histoire donc vraie de Variant Fry. Alors c'est un journaliste américain qui avait été envoyé en France en 1940 par un comité de secours américain afin d'orchestrer la fuite d'intellectuels, d'artistes et écrivains condamnés par le régime de Vichy, dont de nombreux juifs. Et arrivé pour 15 jours, l'Américain restera finalement un an à Marseille et aura réussi l'exploit de faire sortir du territoire 2000 à 4000 personnes, dont des intellectuels et artistes de renom tels qu'Anna Arendt, Max Ernst, André Breton, Marcel Duchamp ou encore Marc Chagall. Et sans prétendre à l'exactitude scientifique, la série s'inspire de destinées singulières, puisqu'il y a dans la série des personnages qui sont totalement romancés. Et à cela, Anna Winger l'a expliqué en interview par le fait de vouloir, dit-elle, raconter leurs témoignages à un plus large public. Et voilà pourquoi elle a décidé de faire du juif berlinois Albert Hirschman un homme qui devient économiste aux États-Unis, de Mary Jane Gold, une héritière de Chicago, ou encore d'inventer le diplomate américain Hiram Bingham. Et tourner donc dans la cité phocéenne, je trouve que la série Transatlantique est une épopée soignée qui rend hommage à de jeunes héros anonymes qui ont sauvé plusieurs milliers de réfugiés en les aidant à fuir la France pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est une mise en lumière nécessaire, selon moi, de ce pan d'histoire qui est toujours indispensable de rappeler. Et une série aussi réussie dans son récit que dans sa mise en scène et son interprétation. Et je vais passer la parole à Aurore pour la série Ted Lasso.
Merci. Merci Amy, puis on va écouter un petit extrait musical de Ted Lasso du coup avant d'en parler. Remember that you're mine. And when everybody's telling me I have no time, I prove them wrong. Alors,
Ted Lasso, voilà, ça, cette musique, ça me fait beaucoup rire parce que c'est vraiment de la pop anglaise et on est sur une série qui se veut, en tout cas en Angleterre, qui se déroule en Angleterre. Et puis on a le « yeah » au début qui est très très positif et qui reflète vraiment complètement le positivisme du personnage principal. Alors, Ted Lasso, à la base, c'est un entraîneur de football américain. Oui, oui. Et il est recruté par une certaine Rebecca Welton, qui est propriétaire d'un club fictif, hein, mais qui s'appelle l'AFC Richmond. Et elle veut qu'il entraîne son équipe de football. Football, pas football américain. On est bien en Angleterre. Hein. Donc, du coup, on va avoir un décalage dès le début, parce qu'en fait, tout le monde se demande pourquoi Rebecca Welton a fait venir un entraîneur qui, certes, a fait gagner son équipe au football américain, mais qui ne connaît rien aux règles du football européen. Mais quand je dis rien, c'est rien. Alors moi, je ne suis pas américaine, je ne connais aucune règle du football américain. Bah, c'est à peu près pareil pour lui quand il arrive en Angleterre. Et la raison toute simple de pourquoi elle l'a fait venir, mais c'est parce qu'en fait elle a envie de se venger de son ex-mari à qui le club appartenait et puis à qui il lui appartient maintenant puisqu'ils ont divorcé, et elle a envie de lui faire un pied de nez. Donc elle se dit qu'en engageant un entraîneur qui n'y connaît rien en football, eh bien peut-être qu'elle pourra faire couler l'équipe. Ça commence bien pour lui, une belle mission à relever pour Ted Lasso. En tout cas, ce nouvel entraîneur tente tant bien que mal de se faire accepter et puis de combler ses lacunes sportives par son optimisme et sa détermination sans faille, ainsi que par ses petits biscuits aussi, il faut le dire. Il cuisine un petit peu notre Ted. En tout cas, il utilise de nombreuses techniques de communication positive et non violente que peut-être vous reconnaîtrez en regardant la série, pour pouvoir fédérer son équipe. Équipe qui a bien du mal à être fédérée, il y a de nombreuses rivalités et il part déjà de loin. Malgré les embûches qu'on lui sème, et il y en a de nombreuses, vous l'aurez compris, des embûches professionnelles, mais aussi des embûches personnelles, puisque à la base, comme il est entraîneur de football américain, bah, toute sa famille est aux États-Unis. Donc c'est aussi des cheminements personnels qu'il traverse, notre Ted. Eh bien, cet entraîneur au grand cœur ne se départit jamais, jamais, jamais de son sourire et de sa bonne humeur. C'est donc une série qui fait du bien, pour ceux même qui n'aimeraient pas spécialement le football. Parce que même si c'est le sujet central, à vrai dire, il y a de nombreux autres thèmes qui sont abordés autour justement des relations humaines, de la famille, des relations amoureuses, de l'esprit d'équipe et de la solidarité. En tout cas, c'est des belles valeurs qu'on peut retrouver dans le sport, mais qu'on peut aussi retrouver dans la vie et dans la série. Voilà.
Le rendez-vous culture des bibliothèques de Compiègne.
Et puis on va écouter un nouvel extrait pour la série Outer Range que Nathalie va nous présenter.
Outer Range est une série télévisée américaine créée par Brian Watkins, donc c'est la première réalisation. Elle est diffusée sur Prime Video. Il n'y a qu'une seule saison pour l'instant, mais la deuxième est en préparation. On y retrouve tous les codes du western moderne. Deux familles d'éleveurs du Wyoming se querellent pour le contrôle de leurs terres. Une histoire de meurtre vient rapidement noircir le tableau, ajoutant ainsi une intrigue policière à la série. Le récit nous amène rapidement à prendre parti pour la famille Abbott, dont le père de famille est joué admirablement par Josh Brolin. Autour, des personnages attachants ou intrigants, mais toujours charismatiques. Une policière lesbienne indienne qui fait campagne pour être élue shérif, elle est d'ailleurs le seul personnage bien planté dans le sol qui tente de comprendre ce qui se trame. Et une hippie poète qui décide de camper sur le ranch et qui semble avoir une fascination étrange pour la famille Abbott. Mais il ne s'agit pas d'un simple western. Dès le premier épisode, la série prend une dimension fantastique, mais je ne dirai pas pourquoi, qui lui donne toute son originalité. Cet élément surnaturel qui apparaît, même s'il est traité avec beaucoup de sobriété, va donner de l'épaisseur à la série. Dès l'épisode pilote, la tragédie couve. On comprend rapidement qu'il y aura du sang et aussi des zones d'ombre, des angles morts auxquels les personnages chercheront à avoir accès. Ils cherchent à se comprendre eux-mêmes, à comprendre les événements étranges qui se passent autour d'eux, avant de se soutenir les uns les autres. Leur solitude face à l'inconnu est palpable et donne à la série une dimension dramatique certaine. En arrière-plan, la série apporte également une réflexion métaphysique, philosophique et mystique. Des éléments symboliques jalonnent le récit, comme par exemple ces animaux totems qui apparaissent régulièrement aux personnages. Certains protagonistes, baignant dans une atmosphère très religieuse, en arrivent également à s'interroger sur l'existence de Dieu et sur sa bienveillance. Outer Range devient assez vite une série captivante qui fait perdre aux personnages et aux spectateurs tous ses repères. C'est une série dans laquelle on se laisse porter vers le mystère, l'inconnu, où l'on se perdra volontiers dans les grands espaces du Wyoming merveilleusement bien filmés. Si vous avez vu et adoré Dark, qui est disponible sur Netflix, alors vous allez totalement accrocher à cette série qui dégage la même ambiance. On va maintenant passer la parole à Anne qui va nous parler d'Utopia. Mais auparavant, on va écouter un extrait de la bande-annonce.
J'avoue ma défaillance, j'étais passée complètement à côté d'une série démente et incontournable, un ovni télévisuel, datant de 2013, c'est Utopia, une série britannique créée par Denis Kelly pour Channel 4. Dans un contexte mondial de crise alimentaire et de surpopulation mondiale, un duo de tueurs sans limite cherche un manuscrit et pose inlassablement la question suivante à leur victime, « Where is Jessica Hyde ?» On apprend qu'Utopia est un roman graphique qui renfermerait de lourds secrets, dont l'auteur se serait suicidé alors qu'il était interné dans un hôpital psychiatrique. 5 membres d'un forum de discussion en ligne sur la BD et fans d'Utopia décident de se rencontrer quand l'un d'eux, Béjane, affirme détenir un exemplaire du 2e tome n'ayant jamais été publié. Mais Béjane va être tuée et leur vie à tous entièrement chamboulée, nos héros se retrouvant pourchassés par une organisation secrète nommée The Network qui tue tous les gens trop informés sur son passage. Dans ce scénario très solide, qui jongle avec d'incessants rebondissements, où les personnages jouent souvent double jeu, il va être question de théories du complot, de virus, de vaccins douteux, d'eugénisme, d'extermination de la population, de conspiration mondiale redoutable, d'autant plus qu'elle évoluera en même temps qu'avancera l'intrigue. Les scénaristes nous mettent face à un questionnement complexe qui pousse les protagonistes et les spectateurs que nous sommes vers une réflexion passionnante sur de vrais enjeux sociétaux. Elle pointe du doigt la bêtise de l'homme qui continue de détruire la planète et les conflits géopolitiques. C'est très intelligent. Mais attention, c'est aussi très violent. Utopia ne fait pas dans la demi-mesure. Soit on aime, soit on déteste. Et les âmes sensibles devraient s'abstenir, à mon avis. La série instille un univers froid, inquiétant, sans concession. C'est dérangeant, flippant, mais envoûtant. Et même subjugant. Car visuellement, elle est absolument magnifique. L'esthétique est hyper soignée de bout en bout, des mouvements de caméra vifs maîtrisés à la perfection, des plans très larges pour une série filmée en scope, c'est un format habituellement réservé au cinéma. On a un jeu de couleurs éclatantes, des tons saturés, virant souvent au fluo, avec une prédominance du jaune. Et d'ailleurs, dans les scènes, on peut s'amuser à repérer des éléments jaunes, il y en a presque systématiquement. Tout ce visuel sert l'intrigue et connote le dessin, le cartoon, et enrobe l'histoire sous des allures de délire loufoque, avec un aspect joyeux, qu'on retrouve notamment dans la musique électro-pimpante étrange qu'on a pu entendre juste avant. Le compositeur Cristobal Tapia de Verre a opté pour un contre-pied humoristique qui nous autorise à prendre du recul face à l'action. Et de fait, cette série regorge de fantaisie et de décalage. C'est un décalage comique et qu'on ne sait pas toujours comment prendre. Ils déstabilisent, mais viennent contrebalancer la cruauté et nous évitent de trop ressentir la paranoïa des personnages. Parfois, la violence est tellement crue et surprenante qu'elle suscite le rire. La série comporte 2 saisons de 6 épisodes chacune, la deuxième reprenant l'intrigue tout en se renouvelant de manière astucieuse. Mais hélas, elle s'est arrêtée brutalement faute d'audience. Et il en existe un remake américain fait par Amazon Prime, mais il n'a pas du tout la même saveur acide, détonnante et percutante. Voilà, je vous conseille vraiment cette série. Maintenant, on va complètement changer de registre avec une série espagnole, Les filles du dernier rang. On va en entendre la musique, Que nos va a pasar.
Vous avez pu entendre la chanson du groupe Reina Republicana qui s'intitule « Que nos va a pasar » et c'est une expression qui en français veut dire « ça ira ». Et je l'ai choisie parce que justement, Elle a été interprétée dans un des épisodes et elle résume aussi assez bien la série, où l'on suit en fait Sarah, Alma, Carole, Olga et Léo, qui font partie d'un groupe d'amis qui dure depuis des années. Et ces cinq femmes se sont rencontrées alors qu'elles n'étaient que des adolescentes. Et au fur et à mesure des années, elles ont grandi, mais elles sont toujours restées unies au point de s'organiser chaque année un voyage entre copines. Et cette semaine d'escapade est l'occasion pour chacune d'entre elles de revivre une vie de légèreté loin des enfants, du travail et des problèmes du quotidien. Et on oublie ces problèmes, on profite du moment présent, telle était leur devise. Alors malheureusement, cette année, un événement vient bouleverser leur vie, puisque en effet, l'une d'entre elles vient d'être diagnostiquée d'un cancer. Et la petite particularité pour nous spectateurs, c'est que nous ignorons totalement laquelle des cinq est atteinte du cancer, donc du début jusqu'à la fin. Alors ne vous méprenez pas, la série s'éloigne complètement du côté déprimant de la situation, pour au contraire nous emmener sur un terrain plus résilient, positif et accueillant. Alors dès le premier épisode, c'est assez marquant parce que ça reflète pour moi aussi l'univers solidaire et puissant de la série. Parce que, en signe de soutien, chacune de ses copines se rase la tête l'une après l'autre et entreprennent un voyage encore plus déjanté et hors des sentiers battus. Alors, au programme, un défi complètement dingue et osé qu'elles doivent accomplir ensemble pour chaque épisode ou sur des projets auxquels chacune d'entre elles tient à cœur. Alors particulièrement, je vous conseille l'épisode 3 et l'épisode 4. Alors dans l'épisode 3, il y a une scène de danse en visio entre une mère et sa fille qui est avec une danse qu'ils ont intitulée « La danse contre la peur ». Et ensuite l'épisode 4, dans lequel elles font une démarche de retrouvailles et de remerciements et de pardon auprès des personnes qu'elles ont perdues de vue pendant plusieurs années. Et c'est vraiment le point de départ de la série qui est produite par Atypica Film. Le tout écrit et réalisé par le talentueux Daniel Sanchez Arevalo, qui en 6 épisodes nous permet d'accompagner ces 5 femmes qui ont mis le cap sur la côte de Cadix pour renforcer leurs relations mais aussi défier leurs peurs. Donc il y a des séries dont on sait en les visionnant qu'elles ne nous laisseront pas du tout de marbre, et la série Les Filles du Dernier Rang fait selon moi partie de cette catégorie grâce à un récit en quelques mots réaliste, touchant, pleine d'esplégorie et d'allégresse. Et rythmé par une bande-son entraînante aux résonances ibériques, comme vous avez pu entendre, c'est une série en mode positive attitude activée qui fera peut-être naître en vous l'envie de prendre le large et de vous reconnecter à la vie, à tout ce qui vous fait du bien pendant cet été. Donc je repasse la parole à Aurore.
Merci Amy. Eh ben, je propose qu'on écoute un petit extrait de la série que je vais vous présenter derrière. On est encore dans un autre registre, il s'agit de La Reine Charlotte. Eh bien voilà, magnifique musique de Beyoncé revisitée par Caleb et Brian Chan, avec un petit air du 18e siècle. Tout ça pour vous parler de La Reine Charlotte, cette série qui s'appelle Un chapitre de Bridgerton. Alors je ne sais pas si vous avez vu les chroniques de Bridgerton.
Tout à fait. Saison 1 et saison 2, et normalement, si tout va bien, il y a une saison 3 qui est prévue.
Nathalie, non ?
Non.
Non.
Ah non, eh ben moi non plus, j'ai pas vu, en vrai. Et eh bien, je vous dis qu'il n'y a pas besoin, en tout cas, de les avoir vus pour pouvoir profiter de la série dérivée, qui est un préquel, La Reine Charlotte, et qui se concentre sur la jeunesse et l'arrivée au pouvoir de cette reine. Alors, c'est bien précisé dès le début, ceci n'est pas une leçon d'histoire, c'est bien un divertissement. Ok. Mais à quel point c'est un divertissement, en fait ? Parce que quand on voit une future reine noire arriver en Angleterre, tout droit d'Allemagne, on peut commencer à se poser des questions. Et en fait, c'est ça que moi j'ai trouvé formidable avec La Reine Charlotte, c'est que ça donne envie de démêler le vrai du faux entre l'histoire de la série et l'histoire avec un grand H. Alors, est-ce que le roi Georges III était vraiment fou ? Est-ce que la reine était de couleur ? Est-ce que les réformes dont il parle ont vraiment eu lieu ? Voilà, je vous laisserai découvrir. Ou est-ce que tout a été savamment modifié pour que ça nous donne juste l'air vrai ? Est-ce que c'est si manichéen que ça ? Je ne crois pas. Je pense qu'il y a, plein de choses à démêler, et c'est vraiment ça qui en fait la richesse, parce que ça donne envie d'en savoir plus sur l'histoire de l'Angleterre, et en même temps ça met en perspective des thématiques qui étaient quand même des thématiques de l'époque, mais qu'ils ont traitées différemment. C'était une mini-série qui est en 6 épisodes, donc vous aurez vite fait de la regarder, environ une petite heure par épisode, disponible sur Netflix depuis le mois de mai dernier. Et je vous la conseille si on aime l'histoire, si on aime les séries en costume, et même si on aime les romances aussi, parce que bien sûr, comme dans toute bonne série en costume, il y aura des histoires d'amour, la première étant bien sûr celle de la reine Charlotte avec le roi Georges III. Bien, je crois que notre émission touche à sa fin, Anne.
Et oui, exactement. Merci beaucoup. Un grand merci à Nathalie, Amy, Antoine pour sa dernière émission avec nous.
Oh,
et, ouais. Et Aurore pour sa chronique, mais aussi son aide logistique, ainsi que Léo pour son aide technique. Aujourd'hui, nous avons conseillé 8 séries. Donc Aurore nous recommande Ted Lasso et La Reine Charlotte. Nathalie, Outer Range. Amy nous a conseillé Transatlantique et Les filles du dernier rang. Antoine, Infinity. Et moi-même, Des gens bien et Utopia. Nous nous réjouissons de retrouver du 31 août au 3 septembre les rendez-vous de septembre pour leur 3e édition, avec des groupes variés dont vous pourrez découvrir les noms prochainement sur notre site internet. Le 15 septembre, nous retrouverons notre rendez-vous culture dans le cloître, suivi d'un ciné-clep avec Le Pont des Espions de Steven Spielberg à 20h15. Pour notre prochaine émission, c'est le 22 septembre sur Graphite, et notre émission série sera le 1er décembre. Mais d'ici là, nous vous souhaitons un très très bon été.
Merci Anne.